Bonjour, ou peut-être bonsoir. Asseyez-vous, inspirez, expirez. Soyez calme, ne vous agitez pas. Prévoyez du temps, n'ayez pas un rendez-vous dans 10 minutes ou le repas à faire, car ce que je m'apprête à vous dire est un témoignage universel. Je parle au nom de l'humanité, celle qui fut brutalisée, censurée, qu'on a fait taire. Je suis personne et tout le monde à la fois, entendez-le bien. Juifs, tziganes, étrangers, résistants, femmes, hommes, enfants, peu importe. Je suis la mémoire, leur mémoire, celle du passé, du présent et, je l'espère, celle du futur. Je sais qu'ils emploient des méthodes brutales avec des arrestations, des emprisonnements ou encore des fusillades. Il y a aussi des dénonciations. Les citoyens allemands sont envoûtés, endoctrinés par le régime nazi. Ceux qui n'adhèrent pas sont contrôlés par la terreur. Nous, on ne sait pas grand-chose et on ne sait pas quoi faire. Alors on attend que ça se passe. J'ai aussi entendu parler de boycott, de certaines lois de Nuremberg et d'une nuit de cristal. Toutes ces rumeurs ne sont pas définies, personne ne sait si c'est vrai. J'ai juste entendu dire que ça ne concernait que les Juifs. Le régime nazi a quand même permis à l'Allemagne de devenir la deuxième puissance économique mondiale. L'armée allemande a étendu ses territoires alors qu'il y a eu la conférence de Munich. Il a continué, personne ne l'arrête. En septembre 1939, il a annexé la Pologne. Ça a déclenché la guerre. Guerre qui n'a pas commencé depuis si longtemps et qui semble interminable. Mon pays fait partie de ces pays vaincus en quelques mois. Nous sommes humiliés et impuissants. Quelques pays résistent encore, comme le Royaume-Uni, l'URSS, les États-Unis aussi. Mais pour l'instant, ils sont tranquilles. On n'en entend pas parler. Mais moi et beaucoup de résistants plaçons en eux de nombreux espoirs. Je sais que durant la Première Guerre mondiale, c'est grâce à eux que nous avons gagné. Je repose mon stylo. J'avais besoin d'écrire ce qu'il se passait, ce qu'il se passe. Je ne sais pas grand-chose, mais ça me suffit. Je n'ai jamais détesté l'Allemagne, mais depuis que le régime nazi est au pouvoir, je sens que ce pays n'est plus le même. J'ai l'impression d'être concernée par cette histoire. De près, de loin, je n'en ai aucune idée, mais je n'ai pas un bon pressentiment. Peut-être parce que je suis juif, résistant, et toutes ces choses qui ne plaisaient pas à Hitler, et que mon pays est sous son contrôle. Je suis perdue, et je ne sais pas ce que je deviens, ce qu'on devient. Je m'appuie sur le dossier de ma chaise, ce que je viens d'écrire, je dois le cacher. Mais où ? Aucune idée, tout est surveillé, contrôlé. Je me décide enfin, mais avant d'avoir pu reposer la main sur mon écrit, j'entends des coups sourds à la porte. Qu'est-ce que je dois faire ? Ouvrir ? Me cacher ? Je sais que ce n'est pas le voisin qui vient me demander un peu d'ail. Il y a déjà eu de nombreux cas similaires. Je ne suis pas assez fort pour résister. Je ne sais pas quoi faire et j'essaye de me rassurer. Après tout, c'est peut-être le voisin qui frappe plus fort que d'habitude. Je prends mon courage à deux mains et ouvre la porte. Je n'ai jamais commis de crime, je n'ai jamais fait de mal à personne. Pourtant, ce jour-là, quand ils sont venus m'arrêter, c'est la seule solution qui m'est venue à l'esprit. Qu'aurais-je pu faire d'autre ? J'ai sûrement commis un crime sans le vouloir. Sinon, pourquoi m'arrêterait-on ? J'ai déjà entendu des rumeurs circuler à propos d'arrestations, des soviétiques, des polonais, des tziganes et aussi des juifs. Des résistants aussi. Toutes les personnes qui ne sont pas parfaites, d'après eux. Quand ils sont arrivés chez moi pour m'emmener, j'ai su que je ne reviendrai pas de sitôt. On m'a conduit jusqu'au commissariat. Je n'étais pas le seul. Il y en avait d'autres, plein d'autres, qui attendaient sans savoir ce qu'ils attendaient. Cette attente insoutenable, où l'on ne sait pas ce qu'il se passe, tout en sachant qu'elle nous mènera sur un chemin semé d'embûches. Plus tard, après un pénible interrogatoire de plusieurs jours, nous sommes tous montés dans un train, où chaque compartiment était gardé par 2 gendarmes. Il ne servait à rien de leur parler, de leur demander quoi que ce soit. Pour eux, à cause de tout ce qu'ils ont entendu, de tout ce qu'on leur a dit, il ne servait à rien de leur parler, de leur demander quoi que ce soit. Pour eux, à cause de tout ce qu'ils ont entendu, de tout ce qu'on leur a dit, ils ne transportaient plus des humains. Ils ne nous ont pas parlé, car ils jugeaient que nous n'en valions pas la peine. Le voyage a duré plusieurs heures. Une fois le train arrêté, on nous a emmenés dans un camp, appelé camp de transit. La transition vers quoi ? On a tous peur de ce qui va nous arriver. Seulement, on ne sait pas à quoi se préparer. Les conditions du camp de transit n'étaient pas idéales. Nous étions tous entassés et nous avions l'impression de nous trouver dans une prison, pas dans un camp. Nous dormions entassés sur des paillasses. Dans chaque baraque, il n'y avait ni porte, ni fenêtre, juste une ouverture béante qui laissait entrer le froid. Ce ne sont que des appartements inachevés, détournés de leur fonction initiale. Un jour, une liste est affichée. Il y a des centaines de noms, dont le mien. On nous a dit qu'on irait travailler en Allemagne. On ne nous a pas dit pourquoi, ni comment. C'est comme ça que j'ai quitté le camp de transit pour ne jamais y revenir. On nous a emmenés jusqu'à une gare où attendaient des wagons à bestiaux, rangés le long du quai. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un trajet plus pénible que celui que nous avons fait du commissariat au camp de transit. Je me trompais, de loin. Jamais je n'oublierai ce voyage interminable où nous n'avions pas la place de faire le moindre mouvement. Plusieurs personnes autour de moi se sont effondrées et ne se sont plus relevées. Ces personnes, ou plutôt ces morts, nous les entassions sur le côté, seule solution pour se faire de la place. Petit à petit, les odeurs de cadavres, de transpiration et celles des besoins qui sortaient de la tinette que nous partagions tout au fond du wagon imprégnaient l'air et le peu de bien qui nous restait. À ce moment, je n'étais plus. Je n'arrivais plus à me considérer comme un être humain. Je n'étais qu'une bête, une marionnette. Aux mains de qui ? Et le train s'est arrêté. Combien de temps avions-nous passé à l'intérieur ? Des heures, des jours, des semaines, des années ? Je n'avais plus la notion du temps. Quand nous sommes descendus sur les quais, ou plutôt quand nous avons été poussés sur ceux-ci, on nous a demandé de déposer les affaires qui nous restaient. Quand on me demandait si on récupérerait nos bagages, on nous répondait « après ». Il y avait des policiers, appelés SS. Il y avait aussi des hommes en tenue rayée bleue et blanche. Ils étaient frêles et n'avaient aucune expression. Les SS nous ont séparés en plusieurs groupes. Les femmes ont été séparées des hommes, ainsi que les enfants. Beaucoup sont partis dans des camions. Quand j'ai donné mon âge, on m'a mis dans un groupe et nous sommes partis sur un camion semblable à ceux qui ont emporté les autres. Nous sommes arrivés devant une porte de portail, au-dessus duquel était écrit en lettres de métal « Arbeit, March, Frey ». En passant sous cette arche, nous entrions dans le camp de concentration. Ces portes étaient les portes de l'enfer. Nous avons dû nous déshabiller et déposer nos vêtements, seules affaires qui nous restaient. Nous avons attendu ainsi dans le froid pendant plusieurs heures, nus et démunis. Là encore, certains se sont effondrés. Enfin, on est venu nous chercher, on nous a tondus, douchés, et alors là, ils m'ont supprimé la seule chose qui me restait, mon prénom. Sur l'avant-bras gauche, ils m'ont tatoué un numéro. Ce numéro était ma nouvelle identité. C'était moi. Ensuite, nous avons été désinfectés et on nous a donné ces vêtements que j'avais vus sur ces squelettes ambulants. On nous a aussi donné des galoches de toile aux semelles de bois.
Une journée où aucun soleil ne vient nous éclairer, où seuls les nuages noirs nous entourent de leur froideur et de leur souffle mortel. Une journée durant des mois. Appelez-vous vraiment cela une journée ? Le temps était fini où les jours se succédaient, vifs, précieux, uniques. L'avenir se dressait devant nous, gris et sans contour, comme une invincible barrière. Pour nous, l'histoire s'était arrêtée. Les coups de gong lancés par les capots résonnèrent au fond de ma tête, dénués de toute pensée. Je me réveillais d'un sommeil sans rêve, les muscles roidis par l'accumulation du travail de ces derniers mois. On dormait sur des chalets à 3 étages, sur des paillasses, avec une mauvaise couverture, pleine de trous et de vermine. Il n'était que 4 heures du matin, mais déjà, les plus robustes d'entre nous, c'est-à-dire les gros numéros, se ruaient vers les soi-disant douches, espérant profiter d'un mince filet d'eau pour leur toilette. Mais moi, rien que de penser à courir me faisait trembler, et la vue du sol commençait à se rapprocher de moi. Alors, je me dirigeais d'un pas lent vers la sortie de notre baraque, marchant sur les cadavres tombés des lits durant la nuit, et profitant du seul moment de douceur que je pouvais avoir dans la journée à venir. Arrivé à la porte de notre baraque, le froid de Pologne me rebuta, mes intestins se nouèrent. Un nouveau jour sinistre commençait. Je me dirigeais alors vers la distribution de pain rassis et à moitié cramé. Une telle vision de petit déjeuner aurait pu en rebuter plus d'un, mais moi, elle déchaînait des bruits de famine interminables comparables à des vents violents dans mon ventre. Mais malheureusement, je devais encore économiser pendant quelques jours mes portions de pain pour pouvoir me payer une nouvelle cuillère, car on m'avait volé l'ancienne pendant que je dormais. Alors sentir la boule de pain contre mes côtes saillantes me fit saliver plus d'une fois durant la minute qui nous était accordée pour la manger. Heureusement, ou malheureusement, il était l'heure de faire l'appel, et cela me permit d'oublier le pain. Je me dirigeais donc vers le dit lieu et voyais déjà du monde s'activer dans les baraques, pendant que certains attendaient alignés par 5 et que l'orchestre commençait. comme si la musique remplie de gaieté était là pour nous divertir alors que nous allions reprendre un travail inhumain. Elle nous narguait. Et donc, il fallait sortir les femmes qui étaient mortes pendant la nuit parce qu'il fallait que les comptes soient justes entre les vivantes et les mortes. Et on est alignés comme ça dans le froid. Au garde à vous, l'appel durait aussi longtemps que les comptes soient justes. Alors on attendait. C'est les femmes officielles allemandes qui s'occupaient des comptes. Elles venaient avec des registres. Elles avaient le nombre de Stück. Parce qu'on n'était pas des femmes, on n'était pas des hommes. On s'appelait des Stück en allemand. Des pièces. On était des pièces. Et cet appel pouvait durer des heures. Les capots comptaient, recomptaient et recomptaient encore. Et bien entendu, durant l'appel, ils pouvaient nous humilier, sans vergogne, choisissant au hasard qui serait l'humilié. Je me souviens d'une fois où un capot s'était dirigé vers moi, les yeux plissés. Peut-être mon regard fuyant et craintif l'avait-il attiré jusqu'à moi. Il n'en est pas moins qu'il m'avait hurlé quelque chose en allemand. Et moi, je n'avais rien compris. J'avais beau être au camp depuis quelques semaines, à ce moment-là, mon allemand était très limité. Et je m'étais appuyée surtout sur mes camarades pour le comprendre. Mais après ces aboiements, le capot s'était arrêté. Il m'avait regardé de haut en bas et sondé du regard. Et enfin, il avait trouvé que faire de moi. D'une telle simplicité, il avait tiré sur un fil où était décousu mon haillon. Je m'étais retrouvée donc nue, le froid me brûlant encore plus la peau. Alors, les rires des capots avaient tranché le froid et le silence. Et moi, je m'étais soumise et tue sans pouvoir dire un mot. Je crois que ce moment-là a été le plus humiliant de toute ma vie. 7 heures, l'heure de partir à nos commandos respectifs. Nous partions tous en file indienne, regardant nos pieds, les épaules affaissées par les coups de crosse donnés par les capots. Mon groupe et moi étions les Kartoffelschäler. Nous devions éplucher les pommes de terre, les trier, garder parfois un seul et minuscule morceau pour la soupe du soir. Nous arrivions dans un espace boueux, mélange de neige et de terre, où toutes les patates étaient déposées en tas. Alors, le travail commençait. Nous prenions des pommes de terre dans le creux de nos bras et commencions à les éplucher. Mais la plupart de ces patates étaient pourries, et l'odeur nauséabonde qui s'en dégageait était irrespirable. Alors il fallait s'habituer, car si les capots nous prenaient en train de nous arrêter une seconde, ou en train de détourner la tête pour essayer d'inhaler un peu d'air frais, des coups de crosse nous attendaient. Ainsi, recroquevillés, le nez dans ces patates, nous épluchions, découpions des morceaux, enlevions les germes aux proportions inimaginables, et le pourri omniprésent. Abruti par ce travail, je continuais sans m'arrêter, comme une machine programmée qui n'aurait ni besoin de faire de pause, ni de manger. Qui n'aurait pas besoin d'être humain, en somme. Et qui pourrait distinguer nos visages des uns des autres. Un cri attira mon attention. Il fut émis par l'un de mes camarades. Je tournai alors vivement la nuque. Le capot hurlait, une batte à la main qui finit en un coup sec sur le dos de mon compagnon. Le capot disait quelque chose comme « Ça t'apprendra à manger les pommes de terre !» et se mit à taper de plus en plus fort, ce qui ne fit qu'augmenter les hurlements de douleur de mon camarade. Le capot reprit son souffle, puis recommença de plus belle, la haine d'autant plus présente dans ses yeux. L'atmosphère fut à nouveau remplie de ses cris. Cela dura peut-être 5 minutes jusqu'à ce que plus rien, plus de bruit, fût le souffle glacé de la mort. Le corps tomba sur le sol, tandis que le capot, épuisé, hurla « Arbeit, schnell !» Nous retournâmes donc à nos patates en silence. Ce genre de choses arrivait souvent. Lorsque l'on meurt de faim et que la nourriture sous nos yeux, inaccessible, nous nargue, c'est difficile de résister à la tentation. Notre capot était un triangle vert, un criminel. Dans le camp, il était réputé pour avoir, dans son ancienne vie, été un tueur en série. Ainsi, il n'était pas anormal d'en voir mourir plus d'un sous sa batte. La journée passée. Certains tombaient, morts de faim, d'épuisement ou de maladie. Les heures étaient longues, mais pas assez doux de même. Et ainsi, le soir vint, me demandant comment je pouvais encore tenir debout. Il fallait charger les corps des personnes mortes pendant la journée pour les ramener au camp, pour les comptes de l'appel du soir, à 19 h. Ce soir-là, l'appel, qui dura une nouvelle fois une éternité, était suivi d'une sélection qui avait lieu régulièrement. Je voyais la crainte dans les regards de certains déportés. D'autres, qui étaient pour la plupart là depuis longtemps, étaient indifférents face au sort qui les attendait. Ils n'avaient plus peur de la mort. Je ne fus pas sélectionné, mais 50 d'entre nous partirent pour les chambres à gaz le lendemain. À la distribution de la soupe, ces déportés-là eurent droit à une ration en plus, sachant que ce serait leur dernière. Moi, je n'eus que le haut de la soupe, de l'eau tiède en clair. Les capots faisaient exprès de faire ça. Ne pas remuer la soupe pour se garder le plus consistant, nous laissant une eau ayant à peine le goût de légumes. Je soufflais sur ma soupe. réflexe de mon ancienne vie, et la but d'un seul trait. Nous nous dirigeâmes vers les baraques pour l'extinction des feux, pour dormir d'un sommeil peu réparateur en compagnie de poux et de la vermine. Des poux, il y en avait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quand je mettais ma main sous les selles, je pouvais vous en sortir toute une poignée, de poux à la fois. Couchée, je ne mis pas beaucoup de temps à m'endormir. Malheureusement, je me fis réveiller plusieurs fois pendant la nuit. La première fut quand un de mes camarades hurla dans son sommeil, sûrement à cause de cauchemars. Beaucoup d'entre nous en faisaient. Moi, j'avais de la chance que la mort ne vienne pas me visiter en rêve, en plus de la journée. Nous dûmes donc le calmer et nous nous sommes rendormis. Quand je me fus réveiller pour la seconde fois, ce n'était pas à cause de mauvais rêves. C'était un père qui était déporté avec son fils. Son fils devait avoir 18 ou 19 ans et lui 40 ou 45. C'était des Juifs qui étaient déportés de Pologne. Et dans la nuit, ils se sont battus à mort parce que le père, il avait volé la ration de son fils. La nuit se passa donc ainsi, entrecoupée de cris de terreur, de pleurs et de gémissements. Le matin fut le même que tous les autres. Nous vîmes en plus partir aux chambres à gaz, les sélectionnées de la veille. Après l'appel, un adolescent fut pendu pour avoir tenté de s'échapper durant la nuit. Moi, je voyais plus une pendaison pour avoir tenté de retrouver son humanité. Lorsque la corde se serra sur son cou, ses traits se figèrent, tranquilles, comme si la mort l'avait finalement libéré. Je m'apprêtais à partir vers mon commando lorsque je vis des SS arriver. Chose peu commune de les voir dans le camp. Ils dirent quelque chose au capot, puis eux-mêmes nous demandèrent de nous remettre en ligne. Ils allaient choisir 5 d'entre nous. Pourquoi ? On ne le savait pas encore. Je connaissais très peu de nombres en allemand, mais mes horaires vibrèrent lorsque les SS en hurlèrent un. C'était celui que j'avais appris par cœur, consonance pour consonance. Je relevai alors brusquement la tête, fixant le SS. À ce moment-là, j'avais peur de ce qu'ils allaient faire de moi, et mon cœur se mit à battre très fort. Ils me demandèrent alors d'approcher et en appelèrent 4 autres. Après les avoir appelés, les capots hurlèrent aux autres de partir pour leur commando. Lorsque les SS nous expliquèrent pour quelles raisons nous avions été choisis, mon corps se mit à ralentir. Nous allions accompagner le médecin pour des expériences secrètes. À ce moment-là, j'étais heureux. Je n'allais plus avoir à rester dans le froid et sentir les pommes de terre pourries. Les SS nous amenèrent dans une pièce chauffée, où se tenait un homme, blouse blanche sur le dos. Cet homme nous raconta que nous serions des infirmiers et que nous devrions faire toutes les tâches qu'il allait nous ordonner. L'homme, qui était le médecin, nous amena dans une autre pièce où il y avait des jumeaux. Il en prit deux par les bras et les amena dans une autre pièce encore, où tournaient deux grands lits en bois recouverts de papier blanc. Il leur signifia d'un regard de s'allonger, nous donna des gants, puis nous dit de rester à l'écart, et que, pour cette fois-là, nous allions juste regarder l'expérience. Il prit alors une seringue et déversa le liquide qui était contenu dans les bras des deux jumeaux. Petit à petit, ces deux derniers commencèrent à fermer les yeux. Pendant ce temps, le docteur regardait sa montre, attendait. Il avait l'air impatient que le temps soit écoulé. Lorsque ce fut le cas, il tapota sur sa montre, l'air enthousiaste. Il nous demanda alors de prendre les enfants. Lorsque je pris les bras de l'un des deux, je ne voyais pas sa cage thoracique descendre ou monter, et je compris. Ils étaient morts. Alors je regrettai mon euphorie de la matinée. J'allais devoir assister un soi-disant docteur, mener des expériences sadiques sur des êtres humains niais. Nous dûmes amener les enfants dans une pièce de derrière. Là, le docteur les regarda, les souleva à des endroits, puis posa des instruments, et commença à les disséquer. Nous dûmes regarder ce spectacle affreux et répugnant pendant tout le reste de la journée. Et, en allant me coucher, j'avais peur de ce que j'allais voir les jours, les mois suivants. Mais je vais vous dire ce que j'ai vu. Des hommes, des femmes, des enfants stérilisés, brûlés, affamés, rendus malades. Tout ça dans le but d'expérience. Aussi, je me rappelle la petite Dagmar. Elle était née à Auschwitz en 1944 de mère autrichienne, et j'avais aidé à la mettre au monde. Elle est morte après que Mengele lui ait fait des injections dans les yeux pour essayer d'en changer la couleur. La petite Dagmar devait avoir les yeux bleus. Lorsqu'ils n'eurent plus besoin de moi pour cette tâche horrible à voir, ils m'envoyèrent à un autre commando, dont je n'aurais jamais imaginé l'existence, et bien plus horrible que le dernier.
Je suis juif et tzigane, ou je ne leur plais pas, ou ils se sont lassés, ou j'ai peut-être piqué une patate trop pourrie, Je n'ai donc pas le droit à la vie. On me le retire comme on retirait un jouet des mains d'un enfant. Seulement là, c'est de ma vie qu'il s'agit. Et de ma mort aussi. Oui, parce que mourir est aussi une liberté dont je suis privée. Après une sélection et des semaines de quarantaine, nous dûmes tous nous présenter à l'appel, et Moll, un SS, choisit les plus forts d'entre nous, exactement 250 au total. On nous emmenait sur la route qui traversait le camp. Nous devions y prendre des pelles et d'autres outils. Il y avait 5 crématoires composés d'un vestiaire, d'une ou plusieurs chambres à gaz et d'une salle des fours. Le K1 se trouvait à Auschwitz 1 et les autres se trouvaient à Birkenau. Le K2 et 3 étaient face à face et identiques. Ils pouvaient contenir environ 3000 personnes. Le K4 et le K5, construits symétriquement, comportaient 3 chambres à gaz, toutes au même niveau, pour 1800 à 2000 corps. Oui, je dis corps, quand vous franchissez ces portes, vous n'étiez plus humain. Personne, voire même individu. Simplement des corps. En plus de tout ça, car oui, cela ne suffisait jamais. L'extermination était trop lente. 2 chaumières furent transformées en chambres à gaz. Les bunkers, d'une capacité d'environ 1000 individus. Tout ça, bien sûr, je ne le sus que plus tard. On nous amena à proximité des crématoires 3 et 4, où nous fûmes accueillis par des SS armés. Nous dûmes nous mettre en rang, et 100 d'entre nous furent détachés et amenés au crématoire 3. Les autres durent continuer la marche en direction du bunker 5, une maison de paysans, où il était également procédé à des gazages. C'est là que le SS, Moll, arrivé à motocyclette, nous reçut dans un uniforme blanc, nous accueillit avec ces mots. « Ici, vous aurez à bouffer, mais il vous faudra travailler. » On nous mena de l'autre côté du bunker 5. Sa façade ne nous révélait rien de particulier. Il ne fallait pas que nous nous approchions pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Nous devions rester dehors pour nettoyer la cour et arracher les mauvaises herbes. Nous ne savions pas du tout ni où nous trouvions, ni ce que nous devions faire. J'étais assez débrouillard et curieux, et petit à petit, tout en faisant semblant d'arracher les mauvaises herbes, contre l'ordre du capot qui nous avait interdit d'être trop près du bâtiment, je me suis approchée. J'ai réussi à aller jusque devant une fenêtre à hauteur d'homme et j'ai regardé à l'intérieur. Une vision de l'enfer. Et ce n'était que le début. À cet instant, j'ai compris que la tâche qui nous attendait, le travail qu'on me donnait à moi, corps faiblement animé, qui avait déjà souffert, sous-être, moins que rien, me retirait à tout jamais mon honneur et la once de dignité que je parvenais à conserver malgré sa tendance désertrice. Il y était entassé un amas de cadavres nus. Ces cadavres étaient tout gonflés et on nous commanda de les porter jusque dans une fosse de 6 mètres de largeur et de 30 mètres de long environ, où se trouvaient déjà des cadavres en train de brûler. Nous fîmes tous nos efforts pour les amener au lieu indiqué, mais les SS nous trouvaient trop lents. On nous battit terriblement et un SS nous ordonna un seul homme par cadavre. Ne sachant comment exécuter cet ordre, nous fûmes encore battus et un SS alors nous montra qu'il fallait que nous prenions le cadavre par le cou avec la partie recourbée de la canne et l'amener ainsi de l'autre côté. Nous devions nous livrer à ce travail jusqu'à 18h. À midi, nous avions une demi-heure d'interruption. On nous apporta à manger, mais aucun de nous n'avait faim. Puis, nous dûmes reprendre le travail. Cela ne s'arrêtait jamais. Les équipes se relayaient sans la moindre pause. Les cheminées fumaient. Du matin au soir, des milliers de personnes passaient les portes d'une chambre à gaz, sans jamais ressortir, qu'une canne autour du cou. Des membres manquants, une apparence vaguement animale. Il fallait 72 heures pour faire disparaître 1700 personnes. Et nous, nous exécutions les ordres. On nous rendait responsables de ce massacre. Qui est-ce qui voyait ces gens se déshabiller, le regard vide? Femmes, enfants, vieux, jeunes, pressentant leur mort arrivant à grands pas. Qui devait les regarder dans les yeux tout en les conduisant à leur perte? Qui, après 10 minutes, ouvrait les portes d'une salle remplie de cadavres si entrelacés que je ne comprendrai jamais comment est-ce possible? Qui tirait par la seule force de ses bras maigres tous ces corps, les conduisait à l'étage en dessous, attendait encore 4 minutes avant que leur graisse ne s'écoule de la déclivité, finissait de les réduire en cendres, alimentait un feu qui ne cessait jamais de brûler. C'est nous. Nous retirions la vie de ces pauvres gens comme la nôtre serait retirée au tour prochain. Ils étaient les bûches et nous étions le soufflet. Pas pour longtemps, juste assez pour les avoir sur la conscience, pour ne plus souhaiter que la mort comme délivrance, comme trêve à cette douleur coupable. Une balle, nous n'en valions pas la peine. Nous tuer était si doux, non. Il fallait que nous participions à ce génocide, à la mort de nos frères, nos camarades, nos enfants. Je les vois mourir. Ils me regardent. Vous savez la lueur humaine qui témoigne de la vie, celle de l'espoir dont les yeux ne disparaissent jamais vraiment. Cet espoir, ce désir brûlant de survivre et non de vivre, se raccroche sans cesse, même dans les abysses les plus sombres, lors d'une chute, dans un bûcher. Partout, il persiste et ne s'éteint que paupières fermées, quand on ne peut pas la voir. Tout ici l'entretenait. Je me souviens d'un SS disant « Retenez votre numéro pour récupérer vos affaires en sortant », en sachant pertinemment que c'était ridicule, absurde. Les gens continuaient à le croire et retenaient leur numéro jusqu'à ce que le Silicon B leur vide l'organisme de toute matière, les entrailles, les boyaux. Nous avions différents postes, coiffeurs, dentistes et autres professions reconverties au service des morts. Certains transportaient les cadavres jusqu'au crématoire, d'autres leur tenaient l'oreille quand ils étaient exécutés, dans le but de ne pas éclabousser le SS. Nous étions mieux nourris et mieux logés que les autres prisonniers. Nous dormions au-dessus des crématoires. Nous avons donc moins ressenti le froid, ce qui n'est pas le cas des odeurs. L'odeur de la mort, tout simplement. Elle devenait banale et au bout de 10 jours, inodore. Néanmoins, nous étions exclus. Nous ne pouvions aller à l'hôpital. Même l'ISS assigné ici était à l'écart des autres. Et puis il y eut la révolte du 7 octobre 1944. Acte désespéré, auquel je n'ai que brièvement entendu parler, et dont aucun participant direct n'a survécu, qui aboutit tout de même à la destruction du K4. Ensuite s'engagea la destruction des crématoires, décidée par la hiérarchie SS devant l'avancée des troupes soviétiques. Et le camp fut évacué le 18 janvier 1945 dans la panique générale. C'est grâce à ce désordre et à cette précipitation que nous, membres survivants des sondeurs commando, moins de 100, pûmes se mêler aux autres prisonniers de camp dans les colonnes des marches de la mort. Je n'étais plus qu'une épave vivante, même plus capable de ressentir une émotion. Je regardais au loin, dans le vide, incapable de réaliser que j'avais définitivement échappé aux sondeurs commando d'Auschwitz. Je suis juif, tzigane aussi, inapte au travail, trop jeune, trop vieux, trop femme, trop humain. Et pour ces crimes, l'on m'a fait endurer les pires souffrances. Je veux que ma mémoire dure. J'ajouterai que, dans ce combat démentiel contre l'inhumanité, c'est la volonté que j'ai tenacement conservée, même aux heures les plus sombres, de toujours voir, en mes camarades et en moi-même, des hommes et non d'autre chose. Et d'éviter ainsi cette humiliation, cette démoralisation totale, qui pour beaucoup aboutissait au naufrage spirituel, que j'ai pu survivre. Que je suis revenu d'entre les morts, plus fort, plus abattu, malheureux, fier, sauf humain.